Podcast, la première. Mon grand-père, ce héros. Une série proposée par Christine Mazuy. Une réalisation de Dominique Martineau Lagarde.
Je m'appelle Jacques Ponteville, j'ai 72 ans, j'ai envie de dire 72 par coquetterie, ça paraît moins. Je suis retraité et l'arrière-arrière-petit-fils de Joseph Brassine, qui fut général aide-de-camp de Léopold II.
Chez les Brassine, on était militaire de père en fils. Joseph fera donc une brillante carrière dans l'armée, jusqu'à être nommé général. Mais à peine l'heure de la retraite a-t-elle sonné que Léopold II le réclame à son service. D'abord comme ministre de la guerre, un poste qu'il quitte en claquant la porte, et puis comme aide de camp, une mission qui plonge Brassine dans l'intimité du roi, mais aussi dans celle de la reine. Son arrière-arrière-petit-fils remonte le fil de l'histoire.
Son père a été militaire dans l'armée de Napoléon, ayant participé aux batailles de la campagne d'Italie, à celle d'Allemagne et finalement à celle de Waterloo. Tous les fils de Pierre Brassine sont entrés à l'armée, dont Jacques-Joseph Brassine, en fait on l'appelle Joseph Brassine dans la famille, disons, est entré à l'armée. Il entra très jeune, à 15 ans, à la troupe directement. À 18 ans, il rentre à l'école militaire. Marie-Henriette allait épouser Léopold II et il se fait qu'à l'époque, on allait recevoir les gens aux frontières et que son régiment était appelé à faire cette démarche et lui-même a été porte-drapeau. Si les souvenirs de la famille sont bien exacts, elle aurait dit à Joseph Brassine « Ah oui, je me souviens de ce beau régiment, de ces beaux soldats et de ce beau porte-drapeau. » En 1870, il y a eu la guerre franco allemande, les soldats français se sont réfugiés en Belgique et ont de ce fait été faits prisonniers. Joseph Brassine, qui à cette époque-là était major, fut nommé à la tête de ce camp. Il s'y employait au mieux à garder le calme et le moral de soldats qui devaient être absolument frustrés, puisqu'en définitive, ils n'étaient pas capturés par leur ennemi, mais capturé par les Belges et il devait certainement avoir le moral très bas. Ce qui amena bien plus tard, disons, lorsqu'il y eut des manœuvres en 1882 entre l'armée française et l'armée belge, à lui voir décerner la Légion d'honneur en tant que chevalier. Mais il se fait que quelques jours après, étant à Paris, le président Jules Grétry de la République française l'invita à déjeuner et lui conféra immédiatement le grade de commandeur de la Légion d'honneur. Deux distinctions, coup sur coup, disons, ce n'est pas banal. C'était certainement, disons, un homme brillant, considéré comme réfléchi aussi, et il l'a toujours eu comme souci, et c'est pour ça que je suis fier de cet ancêtre, disons, à la fois de promouvoir la formation des officiers et le bien-être de la troupe. Les réfectoires, qui semblent tout à fait évidents dans l'armée actuelle, n'existaient pas ou très peu. Donc il encouragea les réfectoires. Les soldats étaient abreuvés de corvées. Leur morale s'en ressentait. Il y avait des désertions, si bien est qu'il inventa des distractions pour les soldats, etc. Et c'est ça qui fit finalement école et fut transmis à d'autres unités. À la fin de sa carrière militaire, le roi lui demanda de remplir le poste de ministre de la guerre. Il y avait une grande polémique à l'époque, disons, concernant le service militaire personnel. Jusque-là, c'était le système du tirage au sort qui existait, qui vous permettait soit d'échapper au service militaire, disons, soit d'y être contraint. Si vous en aviez les moyens, vous pouviez payer un remplaçant. L'armée souhaitait donc une armée de conscription générale, nationale, personnelle, alors qu'une bonne partie de l'opinion publique n'en voulait pas, ce qui donna lieu à de très grosses polémiques pendant longtemps. Lui, comme Léopold II d'ailleurs, est partisan d'un service personnel. Il était entré dans cette fonction en espérant, en désirant que le service militaire personnel soit bien appliqué. Ce ne sera pas le cas parce que le roi Léopold II avait à ce moment-là d'autres projets en tête, polémiques également, et en particulier le projet concernant son Congo. Il réagit comme ne le font très peu les ministres de l'époque, il réagit en démissionnant. Le roi, paraît-il, a été assez furieux, disons, parce qu'il appréciait, disons, le général Brassine, devenu ministre, et il lui en tint rigueur tout un temps. Lorsqu'il a atteint 67 ans, disons, le roi l'a rappelé pour faire partie de sa maison. Il passait une vie de retraité, bien tranquille apparemment, s'occupant de sa famille, de ses roses. Et c'est assez surpris, sans doute, qu'il constata que le roi ne lui tenait plus rigueur, disons, qu'il désirait, comme il lui a été fait savoir, faire partie de sa maison et devenir son aide du camp, ce qui supposait d'ailleurs des voyages à l'étranger qu'il n'a sans doute pas refusé. Joseph Voisin faisait partie de la maison du roi, mais cela n'empêcha pas la reine Henriette de l'inviter de nombreuses fois à Spa. Il meurt la Noël 1897, pardon. La reine aurait dû être très, très peinée, disons, au point d'ailleurs où, si la tradition est vraie, elle confectionna elle-même une couronne de violettes en se disant « Mais voilà, j'ai perdu un grand ami ». Il nous reste des souvenirs de la reine Marie-Henriette, dont par exemple un petit tableautin fait à la main à l'occasion d'une fête équestre, un bijou que la reine Marie-Henriette donna à Joseph Brassine, une petite épée ornée de rubis et de saphirs. C'est une trace de ceux qui furent les racines de notre famille.
La première, restant curieux.